Comment rencontrer le bon partenaire? Comment s'entendre quand on ne parle pas le même langage? Et surtout, comment garder son autonomie quand on se trouve dans l'interdépendance? C'est à ces défis-là que sont confrontés aujourd'hui collectivité et tiers-lieux. Parce que les deux entités partagent au fond le même objectif, celui d'être utiles à leur territoire, elles doivent apprendre, bon gré mal gré, à œuvrer ensemble. Qui plus est, les collectivités ne sont pas les seuls partenaires des tiers-lieux. Il faut donc composer cette relation dans un contexte qui n'est pas exclusif, dans un contexte où plusieurs entités s'articulent, un peu comme dans le polyamour. Par des interviews croisées, qui mêlent la parole de porteurs de projets et de représentants de collectivités, notre mini-série de podcasts en 5 épisodes vous propose de découvrir des études de cas et de croiser les analyses de différents acteurs et actrices de terrain. Embarquez avec nous pour découvrir ces histoires humaines, collectives et politiques qui lient un lieu à son territoire. Je t'aime, moi non plus. Explorer les relations entre tiers-lieux et collectivités. Un podcast de la Compagnie des tiers-lieux, réalisé par Alaphonie. Épisode 3. Il avait pourtant tout pour plaire. Il était une fois un projet de tiers-lieu à Mont-Saint-Barœul, ville d'environ 22 000 habitants limitrophe à Lille. Ce projet avait tout pour plaire et s'appelait Mons Fabrica. Comme à Flénérache, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, ici, le projet de tiers-lieu a été initié au niveau politique par un conseiller municipal élu en 2014 comme délégué à l'innovation et au numérique. Il s'appelle Christophe Panetier et par ailleurs, il est consultant au sein de Terran Consulting, une agence spécialisée en innovation numérique territoriale qu'il a créée en 2015. Passionné d'innovation, Christophe Panetier est quelqu'un de très intéressant à rencontrer pour notre problématique.
Je suis très tôt intéressé à ces projets de tiers-lieux, puisque j'ai un peu suivi ce qui se passait aux États-Unis au début des années 2000, en fait. À ce moment-là, on parlait de lieux tiers, hein, on parlait de troisième lieu, the third place. Et j'ai regardé comment, aux États-Unis, ces lieux émergeaient et comment ils arrivaient à insuffler des dynamiques, notamment économiques, parfois très très différentes, dans des contextes qui sont bien évidemment différents de ce que nous pouvons connaître en France. Voilà. Donc j'ai cette vision et qui a toujours été importante pour moi entre le point de vue du territoire, le point de vue de la collectivité, le point de vue des acteurs.
Voilà qui tombe bien. Alors, Monsieur Panetier, abordons tout de suite les motivations à l'origine de Mons Fabrica.
Une des motivations, lorsque j'ai été élu sur la liste du maire de Mont-Saint-Barœul, ça a été de me dire qu'est-ce que je peux insuffler sur ce territoire comme projet qui va permettre de rassembler des acteurs d'horizons très différents. Et donc de créer cette troisième place dans la ville. Et donc, ma première préoccupation, et le maire a très vite accepté cette proposition, ça a été de me dire comment on peut constituer une communauté d'acteurs qui ont envie de travailler ensemble, qui viennent d'horizons très différents, qui ont envie de se projeter en étant en phase avec le territoire et en phase avec son devenir.
La communauté d'acteurs et d'actrices, hein, d'ailleurs, parlons-en. J'ai eu le plaisir de rencontrer conjointement trois personnes impliquées dans Mons Fabrica. Charlotte, Victor et Karine. Je les laisse se présenter.
Je m'appelle Charlotte Filbien, j'ai 42 ans. J'ai toujours eu un pied dans le milieu associatif, professionnellement ou personnellement. Et j'ai rejoint ce projet il y a 7 ans, en 2016, au retour d'un voyage, d'un séjour au Québec, à Montréal en particulier, où j'ai été impliquée en fait dans la transformation de bibliothèques en tiers-lieux. Et j'ai trouvé ça tellement enthousiasmant que j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'un tiers-lieu était en train de se monter à Mont-Saint-Barœul.
Alors moi, je m'appelle Victor et j'ai rejoint ce projet un petit peu par hasard, par le biais de l'organisation d'un événement ponctuel. Je faisais partie d'une autre association qui avait une utilité à venir se joindre à Mons Fabrica. Et quand j'y suis arrivé, dans le cadre de cet événement, j'ai trouvé que c'était une belle dynamique et je ne l'ai plus quitté.
Karine Monder, je suis journaliste et je travaille comme indépendante dans la communication. Et j'ai rejoint Mons Fabrica en 2018 parce que je cherchais un lieu autre que mon domicile pour aller travailler. Et Mons Fabrica m'intéressait particulièrement parce que c'était en formule tiers-lieu et qu'il y avait d'autres projets. C'était effectivement tout ce qu'il y avait autour que je trouvais vraiment enrichissant.
Super, on a donc une histoire qui commence bien, comme je les aime. Une commune qui impulse et des citoyens, citoyennes, aux profils variés qui répondent à l'impulsion. Alors, comment définir ce tiers-lieu ?
La spécificité de Mons Fabrica, c'est de vraiment être un lieu qui permette de briser l'isolement des télétravailleurs, entrepreneurs. C'est beaucoup de créateurs d'entreprises à ce moment-là et ils ont vraiment à cœur de partager leur enthousiasme, leur liberté, leur désir d'indépendance et d'autonomie à d'autres habitants. Donc il y a ce désir vraiment de partage.
On savait que c'était un lieu qui allait fonctionner s'il y avait un dynamisme de la part des participants et des personnes qui voulaient utiliser le lieu. Il fallait du coup mettre la main à la pâte.
Mais comme nous l'explique Victor, il y a la réalité de ce qu'est le lieu aujourd'hui, en 2024. Et il y a ce qu'il aurait pu être.
Il y a un écart entre ce qu'on rêvait au départ et ce qu'on a pu faire. Donc, ce qui a longtemps été rêvé, c'est que Mons Fabrica soit justement un lieu qui soit à la fois un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de passage, donc avec des usages qui sont très multiples. Donc, il y aurait eu, dans la vision rêvée, un café, une restauration ouverte à tous le midi. Il y aurait eu du commerce, il y aurait eu du coworking, il y aurait eu de la place pour réunir des entreprises privées qui l'auraient souhaité. Enfin, l'idée de tout ça, c'est que ça puisse répondre à des besoins du territoire. À chaque fois qu'on a parlé de ces sujets-là, on rencontrait face à nous des gens qui nous disaient « c'est une super idée ». Dans les faits, par contre, on a eu beaucoup de briques de ce projet qui n'ont pas pu se créer pour différentes raisons. Et ce qui fait qu'on peut, aujourd'hui, si on regarde Mons Fabrica de l'extérieur, on ne perçoit pas tout ça.
Ah ça me rappelle l'amour, ça. Avec ce qu'on idéalise au début d'une relation, et ce à quoi on arrive concrètement après quelques années de vie commune. C'est souvent un peu moins charmant.
Mons Fabrica a rencontré plusieurs écueils, a rencontré plusieurs étapes assez clés qui ont orienté ce qu'il est devenu aujourd'hui.
Pardon Charlotte, tu as raison. Revenons plutôt sur l'histoire de Mons Fabrica. Alors, comment tout ça avait commencé, Monsieur Panetier ?
On a commencé par créer cette communauté avec une quarantaine d'acteurs au départ. Donc, ça a été un mouvement très dynamique, avec des acteurs qui venaient d'horizons très différents. Et le premier événement qu'on a fait a permis de rassembler une cinquantaine d'acteurs. On a été très saisis de cela au départ. On a fait régulièrement des animations. Ça s'est développé. On a impulsé la création du Hyper Café. Le projet s'est plutôt bien lancé avec. Et Charlotte est arrivée à ce moment pour nous rejoindre.
La première étape, c'est que moi, quand j'arrive en 2016, on devait s'installer un an plus tard dans un bâtiment neuf qui était en construction en face de l'hôtel de ville et à côté de la salle culturelle de la ville, donc dans une polarité très centrale, très attractive. Et ce déménagement n'a pas eu lieu pour différentes raisons.
Moi, j'ai toujours penser que ce qui se faisait dans le cadre du programme national de rénovation urbaine était une opportunité fantastique pour Mons Fabrica. Elle n'a pas été saisie parce qu'elle n'a pas été, je le dis comme je pense, elle n'a pas été saisie par les élus, tout simplement.
Ah, là, on a le premier couac. En attendant mieux, Mons Fabrica se voit attribuer un appartement dans un immeuble d'un quartier politique de la ville, le Vieux-Mons, après des tractations entre la ville et le bailleur social Villogia. Cet espace sert de bureau, de lieu de réunion, mais il est assez réduit et surtout il n'y est pas possible d'y mener des activités marchandes de type restauration, café, etc. À partir de 2017, Christophe Panetier doit déménager en Île-de-France pour ses activités professionnelles. Dès lors, il est beaucoup moins présent au conseil municipal, même s'il finira son mandat.
Donc là, on est en 2017. Et en 2018, on arrive avec la collectivité et l'appui de la MEL à identifier une nouvelle cellule qui nous permet cette fois à nouveau de rêver et d'imaginer le plein déploiement de ce projet de tiers-lieu un petit peu plus loin, au pied des tours de l'Europe, dans une cellule de 270 m2, mais là encore, qui appartient à la collectivité comme le premier bâtiment.
Excuse-moi Charlotte, je me permets de te couper rapidement. C'est juste pour souligner ce que tu viens de dire auprès de nos auditeurs et auditrices qui, peut-être, écoutent d'une oreille un peu distraite. J'ai l'impression que le nœud de la relation avec la collectivité est toujours à peu près là, sur l'accès au bâti, sur le lieu physique du tiers-lieu. Voilà, c'est tout. Tu peux reprendre, Charlotte.
On se lance dans une étude de faisabilité économique et on monte un modèle économique hybride qui, du coup, permettait une offre de services vraiment à la fois tournée vers les habitants et tournée vers les professionnels, mais qui permettait finalement à cet espace de fonctionner avec de la création d'emplois. Et en fait, on apprend en 2019 que les travaux sont reportés par la collectivité, reportés de 2 ans, donc jusqu'à 2021. Et entre 2019 et 2021, malgré tout, on arrive à faire vivre la communauté, le projet, en restant dans toujours le même petit local qui nous était mis à disposition. Et en 2021, alors qu'on a presque arrêté les plans avec l'architecte, qu'on est en train d'écrire la convention, qu'on est dans une régularité de réunion avec la ville de tous les 15 jours pour pouvoir écrire et finaliser cette entente, il y a une marche arrière qui est faite par le maire. Et du coup, il décide de ne plus nous mettre à disposition ces cellules.
Là, c'est un tournant important de l'histoire. À ce moment-là, je précise qu'il y a eu de nouvelles élections municipales. Le maire en place a été réélu, mais Christophe Panetier n'est plus au conseil municipal pour défendre le projet. Aujourd'hui, d'ailleurs, il a décidé de s'écarter de la vie politique. Ce qu'il est important de comprendre aussi, comme nous l'explique Karine, c'est que ce qui se perd à ce moment-là pour Mons Fabrica, ce n'est pas uniquement l'accès à un espace.
C'est surtout le souci du capital humain et du dynamisme de la communauté qui avait pris un gros coup au moral. On pensait pouvoir finaliser le déménagement tant espéré dans le lieu convoité et préparé pour que le projet vive vraiment comme c'était envisagé depuis le début. Ça fait partir des personnes qui ne pouvaient plus se projeter dans le nouveau lieu et on a perdu du coup beaucoup de contributeurs et de dynamisme à ce moment-là.
Elles le disent gentiment là, Karine et Charlotte, mais ça a été une vraie claque, ce revirement du maire. Pourtant, Mons Fabrica ne s'est pas arrêté là.
Et donc, dernière étape pour Mons Fabrica, en 2021, on sait qu'on n'atterrira plus dans cette cellule avec pignon sur rue, et donc on cherche une autre solution pour faire vivre le projet. Solution qu'on trouve un peu par défaut, parce qu'elle n'est pas idéale, mais au rez-de-chaussée de la Maison Saint-François, gérée par l'association L'Arche, un habitat partagé, et une association dédiée au handicap en accueil aussi de jour et qui décide de nous accueillir.
Le comble de cette histoire, hein, si je peux me permettre, c'est que lorsque Mons Fabrica s'incarne enfin dans un lieu, eh ben ce n'est pas sur la commune de Mons-en-Barœul, mais dans une rue limitrophe qui se situe à Lille. En réalité, le collectif a beaucoup de gratitude envers l'équipe de l'Institut Saint-François qui leur a permis d'accueillir des événements, des rencontres, de mener des actions et qui a offert au quotidien un espace agréable aux coworkers. Mais ce lieu est un peu excentré et Mons Fabrica, qui occupe le rez-de-chaussée en semi-sous-sol, n'a pas pignon sur rue. Il faut vraiment savoir que c'est là. Il faut passer les grilles de l'Institut, il faut contourner le bâtiment, chercher la bonne porte. On ne peut pas passer et découvrir le tiers-lieu par hasard. Après 2 années dans ce lieu, l'équipe doit faire un triste constat. C'est ce que nous racontent Victor et Karine lorsque nous les rencontrons peu après leur dernière assemblée générale.
Alors aujourd'hui, Mons Fabrica, depuis notre dernier déménagement, qui date de maintenant à peu près 2 ans, peine un peu à survivre. C'est-à-dire que c'est un projet qui devait contenir plein de composantes. Et ça fait 2 ans que le projet vit uniquement du coworking. Quasiment uniquement, on va dire. Récemment, on a fait le constat que nos rentrées financières ne nous permettaient pas de subvenir à notre loyer. Et donc, qu'on n'allait pas pouvoir survivre encore très longtemps.
Au fil des mois, on a constaté de toute façon qu'on n'arrivait pas à poursuivre le projet tel qu'on l'avait conçu au début et qu'on n'arrivait pas à transformer Mons Fabrica avec un nouveau projet.
S'il avait eu vent de la déconvenue de 2021 et du repli du projet à Saint-François, Christophe Panetti ne savait pas que le collectif avait pris la décision de quitter ce lieu et de dissoudre l'association. C'est donc moi qui lui annonce au cours de notre interview.
Je me doutais que ça allait se terminer comme ça. Je ne le savais pas, donc vous venez de me l'apprendre, mais je suis extrêmement triste d'apprendre ça, parce que je trouve que c'est un raté. C'est un raté, quoi, tout simplement. Alors que je ne vois pas pourquoi Mons aurait été à l'écart de ce mouvement. Il n'y avait pas de raison pour qu'il n'y ait pas ce projet à Mons. Il y avait les ingrédients, il y avait des volontés d'acteurs, il y avait quelques volontés municipales, pas beaucoup. Je pense que ça n'a pas été, ça a été difficile. Moi, c'est un combat que j'ai mené aussi, qui n'a pas été simple.
Quand je vous dis qu'il avait pourtant tout pour plaire, ce tiers-lieu, du côté des porteurs et porteuses de projets, l'émotion est présente aussi, évidemment, pour raconter la fin de cette histoire.
On a une première émotion qui est un soulagement, parce que ça faisait quand même un certain temps qu'on sentait qu'on n'allait pas réussir sur le long terme, parce qu'il y a des choses, il y a les nouvelles choses qui ne s'initiaient pas. Par contre, on gardera toujours, je pense, un grand sentiment de frustration, parce que on a beaucoup parlé des habitants qui nous ont renvoyé des choses très positives sur tout ce qu'on a pu faire, en disant « c'est génial, il manque vraiment ça à Mons, comment on peut ne pas finir ça en étant frustré de se dire qu'on n'apportera pas tout ça aux habitants, et à nous-mêmes, parce qu'on est nous-mêmes habitants en tant que porteurs de ce projet. »
On a fait ce qu'on a pu, avec les moyens qu'on avait, le soutien qu'on a eu parfois et qu'on n'a plus eu à certains moments. On a vraiment essayé. Ça a été une belle aventure, je trouve, quand même. Donc il y a un petit côté. Alors c'est pas de la tristesse, oui, c'est dommage.
C'est dommage, mais on a fait ce qu'on a pu. On termine sereinement les choses. Mais oui, ce qui me vient quand même, c'est que la cellule est toujours vide et que devant cette cellule, parce que les travaux étaient reportés, on a réussi à rassembler tellement de monde et que nous, citoyens, on avait initié quelque chose, on avait une proposition. Je regrette juste qu'on ne nous ait pas donné la chance de la tester, de l'amener jusqu'au bout, un peu comme cette culture de numérique qui transforme aujourd'hui nos métiers et qui nous amène à essayer avant de s'empêcher. Voilà.
Pour moi, Mons Fabrica, bien au-delà d'un lieu, c'était un vrai laboratoire de transformation économique, sociale et culturelle du territoire. Personne ne l'a compris, en tous les cas pas la ville, ça c'est sûr. Pourtant, je l'ai écrit noir sur blanc, mais voilà, on n'a pas voulu voir. Moi, ce qui me rend très triste, c'est pas simplement le fait que Mons Fabrica s'éteigne comme ça. Pour les acteurs, j'en suis très triste, mais on a perdu l'occasion d'une véritable locomotive qui n'aurait pas coûté cher à la municipalité, il faut quand même bien le dire. Quand les gens ne veulent pas prendre de risques, ils ne prennent pas de risques, c'est tout. Hein.
Alors il y a ce cocktail d'émotions ambivalentes et partagées. Mais au-delà, quels apprentissages peut-on retenir suite à cette rupture? Enfin, je veux dire, suite à la fin de ce projet. Sur ce point, nos amis de Mons Fabrica et Christophe Panetti ont des avis communs.
La difficulté a été effectivement cette relation entre la ville et les acteurs du territoire.
Ben moi, j'ai jamais vraiment bien compris les attentes de notre collectivité.
Je crois qu'on a travaillé avec une collectivité qui avait peur.
Il y avait le fait de se dire, ah ben oui, mais on va finalement peut-être donner du pouvoir aux acteurs.
En fait, peur du changement, peur du dynamisme qui arrivait en face d'elle.
Pouvoir aux habitants, pouvoir aux associations, du pouvoir aux entrepreneurs. Et ils vont venir demain nous réclamer des choses qu'on n'a pas forcément envie de donner. Me polluer, me bousculer mes politiques publiques.
Peur aussi de mettre le doigt dans un projet qui allait peut-être financièrement.
Alors que la ville n'avait quand même pas non plus investi des 110 000 dans mon Sabrica, faut pas rigoler.
Ou juridiquement l'embarquer dans quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas. Et ça, je peux tout à fait l'entendre. Mais au vu du nombre de réunions, du nombre de tableurs Excel, du nombre de présentations.
Il y a eu des heures de réunion, mais ça a été, je crois, un moment. De véritables dialogues de sourds.
Le soutien qu'on est allé chercher auprès d'acteurs majeurs comme la métropole européenne de Lille, la compagnie des tiers-lieux, la condition publique.
Voilà, donc quand les gens veulent pas, au bout d'un moment, ne veulent pas se parler, je ne jette la pierre à personne.
Je crois que vraiment, on a tout fait pour les rassurer. En fait, ils regardaient dans le détail le projet comme si c'était à eux de décider. Et donc, je crois qu'ils ne nous ont jamais donné leur confiance.
Ok, donc il y a cet accord sur le fait qu'il a manqué à la ville une culture de l'innovation, de l'itération, de l'audace et de la confiance. Mais la lecture globale de la fin de Mons Fabrica n'est pas non plus tout à fait la même pour autant.
Le problème de Mons Fabrica, ça a été ça, c'est qu'on s'est focalisé sur un espace. On a voulu absolument que cet espace soit un espace assez, assez important, ce qui a aussi un peu irrité, à mon avis, la collectivité, enfin la mairie. Et finalement, il y a eu des désaccords ou des incompréhensions de part et d'autre à cause de ça aussi.
La collectivité, elle a une force, c'est qu'elle est propriétaire de lieux qui, pour certains, sont de très, très bonne qualité. Avoir des partenaires privés sans avoir de lieu, ça ne fonctionne pas.
Cette focalisation sur le bâtiment qui était pas indispensable et qu'il aurait fallu continuer à consolider la communauté et à fabriquer du projet, quitte à, comme on le faisait pour le Hyper Café, aller utiliser des infrastructures qui existent dans la ville, passer des partenariats avec tel ou tel pour aller développer certaines activités dans différents endroits de la ville. Ça, c'était largement possible.
Le collectif de Mons Fabrica perçoit aussi l'intérêt de faire du hors les murs, et ils en ont beaucoup fait d'ailleurs. Charlotte est tout à fait d'accord quant à la prévalence de la communauté sur le lieu physique. Mais en même temps, comment générer une activité économique qui rend le projet autonome sans espace adapté pour le faire ? Comment forger une identité commune et donner une lecture claire du projet quand on est dispersé? Je ne dis pas que c'est impossible dans l'absolu, mais concrètement, ça ne facilite pas les choses non plus. Bref, chacun pense à partir de sa place, mais moi personnellement, je crois qu'il faut souligner l'importance d'un espace à soi.
Je parlais tout à l'heure de création d'entreprise, de vie et de respect des individus, des habitants, des citoyens qui s'engagent, ou même d'un créateur d'entreprise qui pense avoir trouvé un lieu pour travailler et qui en fait ne peut pas s'y installer. On avait deux créateurs d'entreprise qui devaient s'installer dans les cellules commerciales qu'on avait prévues pour du test d'activité et de commerce. Ces gens-là n'ont pas pu s'installer comme ils l'espéraient. Ça a interrompu en partie ou reporté certains projets.
Comme dans une rupture amoureuse, même quand on sait qui a pris la décision de quitter l'autre, c'est toujours difficile de comprendre comment la relation s'est dégradée et les responsabilités de chacun.
Non, j'allais dire, il faut pas non plus que la municipalité, que la ville dise c'est de la faute des acteurs. Elle a aussi sa propre faute. Je n'incrimine pas la municipalité quand je dis ça, mais je dis que quand on a l'opportunité d'un projet comme ça, on met le paquet pour renforcer l'attractivité. Pour que même les gens comme vous qui habitent de l'autre côté du périphérique se disent « Tiens, il se passe des choses à Mons, je vais plutôt aller voir à Mons ».
Difficile de savoir le fin mot de l'histoire. Ce serait sans doute idiot de chercher à qui la faute. Si de fait, le maire a mis un coup d'arrêt au projet, on ne sait pas vraiment si c'est le fait du prince ou des dynamiques plus complexes qui étaient à l'œuvre.
Et puis, faut pas se le cacher, il y a des stratégies politiques. J'ai vu certaines tentatives, surtout à la fin du projet, de récupération du projet, de torpillage du projet par certains groupes politiques. Et le maire, c'est un ami et reste un ami. C'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui sait aussi peser ses décisions. Je pense qu'il n'a pas très bien vécu non plus ça. Et il a vécu aussi par rapport à un certain nombre de percutages politiques qui ont eu lieu. Et il ne pouvait pas se permettre non plus, je pense, d'être, je ne veux pas dire déstabilisé, mais d'être pollué par ça, quoi. Et ça a été très nocif, quoi. Ça aussi était très nocif.
Cette vision-là n'est pas partagée par les acteurs de Mons Fabrica que j'ai rencontrés. Ils et elles nous disent même avoir particulièrement veillé à éviter toute récupération politique. Ils et elles restent très prudents et prudentes dans l'interprétation de cette rupture avec la collectivité.
Je crois aussi qu'il y a une dimension de dialogue. Dans une ville, et particulièrement à l'échelle des élus, évidemment, il y a des enjeux politiques, il y a des visions. Surtout qu'on sait que la culture, on va dire, des collectivités est très différente de la culture, on va dire, de la création d'entreprises, puisqu'on pourrait se dire que les tiers-lieux relèvent de ce mouvement un peu des nouveaux modèles économiques et donc de la création d'entreprises. Et c'était à l'époque encore un mouvement très très neuf en France.
On ne saura sans doute jamais ce qu'il s'est passé en interne au conseil municipal et encore moins dans la tête des gens concernés. D'ailleurs, ce n'est pas le but de ce podcast. Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde pour dire qu'on n'a pas laissé le temps à ce projet de prendre sa réelle ampleur.
Moi, c'est ce que j'ai dit, ce que j'avais dit à la municipalité, c'est que on monte pas un projet comme ça sur un claquement de doigts. Inévitablement, ça demande du temps parce qu'il y a de la maturation et il y a des effets de palier.
Oui, il y a eu un soutien, on ne peut absolument pas le contester, sauf qu'il n'était pas respectueux de la vie d'un projet. Un projet, surtout dans cette dimension humaine-là et économique, il a besoin quand même d'un démarrage, d'un test et d'un bilan. Et en fait, on a toujours été en démarrage avec Mons Fabrica. Donc on n'a jamais pu tester et on n'a jamais pu réellement en tirer de bilan. Récemment, on a qualifié le projet Mons Fabrica de pionnier, et donc j'y livre ce mot parce qu'il m'a fait sourire. Mais oui, et la collectivité était pionnière dans cette écoute. Il y a eu de l'écoute, mais elle ne s'est jamais transformée en compréhension et entente.
Il est temps de conclure notre épisode. Revenons, comme d'habitude, à notre si subtile métaphore amoureuse. Moi, au final, cette histoire, elle me rappelle certains récits qui sont un peu des archétypes de fiasco amoureux. Vous savez, la fille qui se fait plaquer sans explication la veille de son mariage, ou bien ce couple qui divorce le jour où ils pouvaient enfin s'installer dans la maison qu'ils font construire depuis 3 ans. Derrière, on a au choix une peur panique de l'engagement, ou bien l'usure face à des mois ou des années de préparatifs laborieux durant lesquels s'installent des mésententes, des déceptions, des écarts de vision. Et oui, les dynamiques relationnelles gardent leur part de mystère. Comme nous l'a dit Charlotte hors antenne, le projet Mons Fabrica a quand même duré 10 ans. Au-delà, nous dit-elle, ce serait presque de l'acharnement. Elle pense que quand 2 personnes ou 2 entités n'arrivent pas à s'aimer, n'arrivent pas à construire ensemble, il est important de savoir se quitter en paix. En tout cas, l'équipe de Mons Fabrica, si elle a su se relever et dépasser l'amertume, jure, mais un peu tard, qu'on ne les reprendra plus.
Une dernière solution qu'on a vue pour qu'un projet tiers-lieu puisse être stable, et c'est de trouver donc des partenaires privés qui permettent de se détacher totalement des besoins de soutien de la collectivité et donc de se détacher de l'instabilité qui est forcément inhérente au milieu politique.
Évidemment, la solution est tentante. Elle répond bien au dicton populaire qui nous dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais qu'est-ce qu'on y perd au change aussi, si l'on fait cavalier seul, ou du moins sans la collectivité? Mais chut, tout ça, nous en parlerons dans l'épisode 4 à travers une autre étude de cas. Merci de tout cœur à Charlotte, Victor et Karine qui nous ont livré leur expérience avec émotion, résilience et lucidité. Merci beaucoup aussi à Christophe Panoutier qui a partagé sa vision et ses convictions avec beaucoup de sincérité. C'était Je t'aime, moi non plus, explorer la relation entre tiers-lieux et collectivité. Un podcast de la compagnie des tiers-lieux réalisé par Alaphonie. Interview, texte, voix off et montage par Magali Nérac. Salut les copains. Création musicale originale et mixage par Étienne Cernot, le seul et l'unique.